qu'il y a du nouveau dans votre supermarché Dia.
Oh, du foie gras ?
Oui, du bon foie gras pour Noël. Parce qu'en ce moment, chez Dia, pour l'achat d'un bloc de foie gras du Sud-Ouest, la Berry, le deuxième est offert.
Est-ce qu'après, on aura le bel accent du Sud-Ouest ?
On a encore plus de raisons d'aller chez Dia. Au rayon frais, 200 grammes, origine France. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés.
Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et Franck Ferrand rouvre aujourd'hui un grand dossier politico-financier. Bonjour Franck.
Bonjour Anissa, bonjour à tous. Le dossier en question est celui de l'hôtel Martinez, en marge de la fameuse affaire Skolnikov. Pierre Abramovici était venu nous parler de ce grand trafiquant de l'occupation. Et lors de cette émission, j'avais envisagé la possibilité de revenir plus en détail sur le dossier Martinez, qui est en vérité très différent, vous allez le voir. C'est ce que nous allons faire cet après-midi, en présence notamment de la fille d'Emmanuel Martinez. Et puis, tout à l'heure, à la fin de l'émission, je répondrai à la question de Gauthier sur l'origine de l'expression « à tire l'arigot ». Il me semble avoir déjà répondu à cette question, mais je le referai avec plaisir. Pour le moment, nous pouvons dire que l'heure est venue de vous raconter une terrible histoire.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Nous sommes le 17 février 1929 à Cannes. Il faut imaginer l'air frais, hivernal qui balaie la croisette en ce mois de février. Un petit événement vient animer la cité balnéaire et même à l'échelle de Cannes, un grand événement puisque ce jour-là, un palace magnifique, flambant neuf, baptisé Hôtel Martinez, est inauguré en grande pompe. Vous le connaissez, cet Hôtel Martinez, évidemment, de style art déco, ce bâtiment que connaissent notamment tous les amoureux du Festival de Cannes et qui déploie fièrement ses étages blancs face à la mer Méditerranée. Un hôtel qui est une pure merveille, imposant, chic, moderne. On pourrait même dire, pour l'époque, en 1929, ultra moderne. Il est certain qu'il est voué à accueillir la clientèle la plus élégante. En ce jour d'inauguration, un certain nombre de personnalités sont venues, ont répondu présents. L'atmosphère est à la fête, chacun peut admirer la splendeur des lieux, l'épaisseur des tapis, la beauté des ferronneries. On peut imaginer la joie du propriétaire des lieux, Emmanuel Martinez. Dans ce projet très ambitieux, il a investi des sommes folles et surtout il a mis beaucoup de lui-même. On peut dire qu'il a placé toutes ses ambitions dans cette affaire. Pour lui, c'est la réalisation, la concrétisation d'un rêve. On peut parler de l'aboutissement d'un très long travail. Car à 47 ans, cet homme distingué, plein de prestance, les cheveux bruns, le regard profond, cet homme a déjà derrière lui un parcours impressionnant. Contrairement à ce que pourrait indiquer son nom, Martinez, il n'est pas espagnol mais italien. Il est né à Palerme le 1er janvier 1882 dans une très bonne famille. Dans sa jeunesse, on est en plein dans la belle époque, évidemment. Il choisit de se lancer dans l'hôtellerie. Il a fait ses armes à Londres. Il reviendra ensuite en France et il prendra notamment la direction d'un hôtel à Vichy. Voilà un homme très intelligent, astucieux, d'une volonté débordante, doué pour les affaires et qui ne tarde pas à se faire une réputation dans ce milieu professionnel essentiellement fermé qu'est l'hôtellerie de luxe. Au début des années 1920, son ascension se poursuit. On peut même dire que cette ascension est éclatante. À Paris, en Normandie ou sur la Côte d'Azur, il est à la tête de prestigieux palaces. Et dès lors, il n'est pas très étonnant que cet homme entreprenant, Emmanuel Martinez, se mette à rêver d'un projet vraiment audacieux. Et s'il faisait sortir de terre son propre hôtel, un palace de nouvelle génération qui pourrait se comparer aux plus grands établissements de prestige à l'échelle mondiale. Le pari est risqué, il faut d'abord trouver un emplacement en vue, il faut élaborer cette atmosphère extrêmement raffinée, à la fois moderne et respectueuse des codes des grands établissements, mais surtout, il faut trouver beaucoup d'argent à investir. Pour Emmanuel, cela signifie contracter des dettes, de lourdes dettes, qu'il mettra probablement, il le sait, de nombreuses années à rembourser. mais il a la motivation des grands entrepreneurs. Il va d'abord repérer une occasion, l'occasion propice. Il se lance, on est en 1927, il achète la villa Marie-Thérèse sur la Croisette à Cannes et dans la foulée, il lance le chantier. Il faudra un an et demi pour que ce palace incroyable sorte de terre. Je vous disais tout à l'heure qu'il était flambant neuf. Il y a quelque chose de plus encore. Il y a une magie du Martinez. Alors c'est vrai qu'en raison des retards de livraison, seuls deux étages ont été ouverts au moment de l'inauguration 1929. Mais peu importe, Emmanuel a maintenant son hôtel, l'hôtel Martinez. Et dès le début, les clients les plus prestigieux vont venir pousser les lourds de porte de l'établissement. Il faut imaginer là tout ce que la Café Society, tout ce que la bonne société de l'époque peut faire de brillant, de léger. Le prince de Galles, par exemple, le futur Édouard VIII, enfin qui ne restera pas roi d'Angleterre très longtemps d'ailleurs, Édouard VIII réserve carrément une suite à l'année. Ça ne veut pas dire que tout soit gagné pour autant. Dès sa première année d'existence, l'hôtel Martinez va traverser un certain nombre d'embûches. Nous sommes en effet en 1929. Ça, c'est une date qui n'est pas porteuse. Vous savez qu'en octobre survient le dramatique Black Thursday, le jeudi noir de la bourse new-yorkaise. Un krach terrible, une bombe à déflagration dont les effets vont se faire sentir pendant plusieurs années sur l'économie mondiale. Et d'abord, bien entendu, sur la clientèle aisée des palaces. Pour l'industrie hôtelière de luxe, on peut dire que c'est un coup dur. Une part de la clientèle est ruinée. Une autre partie est incitée à se montrer un peu plus prudente dans les dépenses et dans le train de vie. Néanmoins, et malgré des défis financiers qui sont quand même très lourds, Emmanuel Martinez ne baisse pas les bras. Il continue à mettre en valeur son établissement. Il y accueille toutes sortes d'événements huppés qui entretiennent sa réputation professionnelle. Et par ailleurs, il poursuit ses affaires dans différents hôtels et restaurants de prestige. Mais il y a une autre menace qui approche. On est dans les années 30 maintenant. Et le spectre d'une nouvelle guerre européenne est là qui se rapproche, sombre et effrayant, un spectre auquel on n'a d'abord pas voulu croire, mais qui se précise d'année en année. Emmanuel Martinez et son hôtel vont payer un très lourd tribut à la Seconde Guerre mondiale.
Pavane pour une infante défunte, signé Maurice Ravel sur Europe 1. Restez avec nous. L'histoire de l'hôtel Martinez vous est racontée cet après-midi sur Europe 1 par Franck Ferrand.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Et cet après-midi, Franck Ferrand, vous nous emmenez sur les traces de l'histoire d'une famille et d'un hôtel dans le sud de la France, l'hôtel Martinez, au cœur de la guerre.
Cette fois, ça y est, l'Europe est entrée dans la guerre, ce qui bien sûr n'arrange pas les affaires des hôteliers et notamment celles d'Emmanuel Martinez. D'autant moins qu'une partie de l'hôtel qui porte son nom est réquisitionnée successivement par les armées françaises puis italiennes. Et après la décision allemande d'occuper aussi la zone libre, vous savez, en novembre 1942, ce sont cette fois les troupes allemandes qui vont prendre possession d'un étage entier du fameux palace cannois. Cette situation est très compliquée, il faut la gérer au quotidien, vous imaginez. Ça n'empêche pas Emmanuel d'avoir des liens avec la résistance. Sa fille unique, Suzanne, a épousé un anglo-canadien, membre d'un réseau d'évasion qui vient en aide à des personnes menacées en France. Et alors même que des forces occupantes sont présentes quelques étages au-dessus, Emmanuel abrite des juifs dans les caves du Martinez. Seulement pour lui, les choses vont mal sur un plan financier. La guerre, l'occupation partielle de l'hôtel, tout ça n'arrange pas la situation évidemment. Les dettes s'accumulent et alors que les prêteurs sont devenus bien rares, Emmanuel Martinez peine à trouver des solutions pour se maintenir à flot. Et plus les mois passent et plus les années s'avancent dans l'occupation et plus c'est compliqué. C'est à ce moment-là qu'apparaît dans notre histoire ce personnage trouble dont je vous parlais il y a 2 ans, Mendel Skolnikov. Il faut s'arrêter quelques instants sur lui, il faut le présenter. Il est né dans la Russie du tsar Nicolas II à la fin du 19e siècle. Jusque-là, il a eu un parcours semé de zones d'ombre. Il est arrivé en France en 1933. Il a réussi à se faire une place dans le négoce du textile. Il a développé d'ailleurs sa propre société. C'est un personnage assez louche, il faut bien le dire, peu recommandable. Condamné plusieurs fois, que ce soit pour des chèques sans provision, pour exercice illégal de la médecine, ça signe son homme. Et néanmoins, il conclut des affaires qui sont de plus en plus juteuses. On peut dire que la guerre lui réussit à cet homme-là. Sa société devient fournisseur de la Kriegsmarine allemande et au deuxième trimestre 1940, on estime que ses avoirs bancaires ont déjà été multipliés par 5. Il fait partie de ces industriels, ou plus exactement en l'occurrence de ces négociants, qui s'enrichissent à la faveur de la guerre. Or, il ne s'arrête pas là. Il va se mettre à acheter toutes sortes d'entreprises, certaines pour le compte des Allemands. Il s'intéresse rapidement aux hôtels de prestige. Comme c'est le cas pour le Martinez, les difficultés financières de beaucoup de ces établissements en font des proies faciles, bien entendu, pour ce genre de prédateurs. Alors Skolnikov a des intermédiaires, évidemment, et il ne tarde pas à penser que la société propriétaire de l'hôtel Martinez pourrait tomber dans son escarcelle. Mais comme le souligne l'historien Pierre Abramovici, je cite, « Emmanuel Martinez n'entend pas céder la direction de l'hôtel qu'il a fondé et auquel il a donné son nom. Ce sera sans doute la cause fondamentale de ses ennuis. » Skolnikov a beaucoup d'atouts dans sa manche. D'abord, il a de l'argent, il a beaucoup d'argent. Il n'hésite pas à tenter de corrompre tous ceux qui peuvent le rapprocher de son but. Il met dans sa poche un certain Bertagna, qui est le collaborateur d'Emmanuel Martinez, et il tente une manœuvre financière en achetant des parts de la dette contractée par la société propriétaire du Martinez. Skolnikov avance masqué, évidemment, mais il avance. Emmanuel Martinez finit par mesurer l'étendue de la menace et finalement pendant l'été 43, voulant tirer les choses au clair, il décide vraisemblablement d'aller à la rencontre de cet obscur Skolnikov. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Je passe de nouveau la parole à Pierre Abramovici. Martinez est venu négocier un prêt plutôt que l'achat de son hôtel, dit-il, ou plus exactement tenter d'éviter cet achat en l'échangeant contre une nouvelle créance. Ça, c'est fondamental, c'est le nœud de notre affaire. Mieux vaut un créancier qu'un propriétaire. C'est le point de vue de Martinez résumé par Abramovici. Les deux hommes, Emmanuel Martinez et Skolnikov, vont trouver un accord. Emmanuel contracte un prêt de plus de 19 millions de francs de l'époque. Il doit délivrer en gage des actions de sa société et ça lui donne évidemment une bouffée d'oxygène extraordinaire. Rapidement, il parvient comme cela à rembourser sa dette, il récupère ses actions, il paraît avoir bien géré la situation en évitant la perte de contrôle de son hôtel. Cette histoire de prêt, c'est sans doute en tout cas ce qu'il pense, est maintenant derrière lui. En réalité, il ne s'est pas assez méfié parce que tous les éléments d'un piège se mettent en place. C'est ce piège qu'on va appeler l'affaire Martinez, une affaire Martinez qui ne fait que commencer. Arrive la libération, la France reprend son souffle, mais au milieu des effusions et des démonstrations de joie publique, on cherche aussi les traîtres, ceux qui ont collaboré avec l'ennemi. Vous savez, la libération, c'est évidemment ces moments extraordinaires d'exultation collective, mais c'est aussi la période de l'épuration avec son lot de chasse à l'homme, de procès plus ou moins expéditifs et de règlements de compte, car certains vont profiter, bien entendu, de cette période de grand désordre à l'envers, si je puis dire. C'est dans ce cadre, bien entendu, que Skolnikov va recevoir la condamnation qui lui est due. C'est bien son placé sous séquestre, l'État lui réclame la somme gigantesque de 3 milliards 900 millions de francs, sauf que, en attendant, le fameux Skolnikov reste introuvable.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et cet après-midi, Franck, nous découvrons avec vous l'incroyable histoire de l'hôtel Martinez, une histoire judiciaire.
On a beaucoup cherché Skolnikov à la Libération. Vous avez vu qu'on l'a condamné par contumace. Il est introuvable. On découvrira ses restes carbonisés en Espagne en juin 1945. Alors vous allez me dire, ça c'est Skolnikov, mais qu'en est-il d'Emmanuel Martinez? Eh bien, lui non plus ne tarde pas à être inquiété. Rappelons qu'il est italien, c'est-à-dire citoyen d'une nation qui a été, en tout cas pendant toute la première partie de la guerre, et même on veut dire pendant les trois quarts de la guerre, qui a été l'ennemi de la France, ce qui rend évidemment les Italiens ou les Italiens d'origine assez suspects pendant cette période. Il s'est senti en danger, il a préféré fuir vers son pays natal avec sa femme, ce qui aux yeux de certains est perçu comme une sorte d'aveu de compromissions éventuelles pendant la guerre. Est-ce qu'on ne l'a pas vu entretenir des relations cordiales avec les Allemands, des Allemands qui s'étaient installés, je vous l'ai dit, dans un étage entier de son hôtel? Est-ce qu'il ne s'est même pas parfois retrouvé à la même table qu'un certain nombre de responsables, non seulement militaires, mais de responsables du régime, des nazis, des fascistes? Rapidement, Emmanuel Martinez est desservi par les apparences. Il devient une cible. Vous savez qu'on est à une époque dans cette épuration où l'on recherche des boucs émissaires, où l'on recherche des personnes qu'il faut condamner, qu'il faut donner en exemple en quelque sorte. En septembre 1944, un groupe de partisans le condamne à mort par contumace. Alors je dis bien un groupe de partisans, hein, c'est une condamnation qui n'a aucune valeur juridique, aucune valeur légale. Peu après, un commando le retrouve en Italie et lui fait subir une détention clandestine de plusieurs jours avant de le libérer. Et par ailleurs, on va s'intéresser de plus en plus à son lien non seulement avec les Allemands qui avaient réquisitionné une partie de l'hôtel, mais avec Skolnikov lui-même. Et ça, c'est le début de toutes les extrapolations. Voici ce que dit en décembre 1945 un journal niçois qui est cité par Abramov ici, je cite. Monsieur Martinez, pour des raisons qui lui sont personnelles sans doute, fit alliance avec le fameux Skolnikov, mais un autre pacte fut sans doute conclu avec le grand Skolnikov et l'obséquieux napolitain. Sans doute, Martinez concédait-il à Skolnikov une part importante du gâteau Martinez, en retour de quoi Skolnikov s'engageait très probablement à céder à son lieutenant une part de divers autres gâteaux, avec juste un tout petit point d'interrogation qui n'atténue que bien mollement la dureté d'accusations gratuites, sans fondement, qui sont des accusations qui néanmoins circulent. Vous voyez que on est dans cette presse de la Libération qui cherche des coupables. À coup de sans doute et d'imprécision, c'est toute la réputation d'un homme qui ainsi se trouve remise en cause. Et surtout, son nom est lié à celui de Skolnikov. Les autorités publiques, la justice se font l'écho de cette suspicion. Et fin 44, attention, fin 44, les biens d'Emmanuel Martinez sont mis sous séquestre. En mai de l'année suivante, alors que la guerre est en train de prendre fin, hein, vous savez, le 8 mai 1945, il est condamné à 20 ans de travaux forcés pour collaboration avec l'ennemi. Je me permets de vous rappeler qu'il était quand même de nationalité italienne. Malgré un dossier tout à fait léger, la justice considère qu'Emmanuel Martinez a collaboré en fréquentant Skolnikov. Elle lui reproche d'avoir vendu son hôtel à Skolnikov, une vente qui n'est pas prouvée. Je le souligne tout de suite. En conséquence de ses liens supposés avec un homme pas possible, il est considéré comme solidaire de sa dette. Ça signifie que des sommes gigantesques lui sont réclamées et que son hôtel, et c'est le sujet même de notre émission d'aujourd'hui, son hôtel lui est confisqué. C'est le début d'une suite d'étrangetés judiciaires qui vont avoir tendance à se répéter tout de même au fil des années. Martinez est exilé à Londres, il veut se battre pour faire reconnaître son innocence. En 49, il se présente librement devant la Haute Cour de Justice de Lyon qui reconnaît enfin qu'il n'a pas collaboré avec l'ennemi. Mais c'est une réhabilitation très incomplète, puisque la dette, cette énorme dette qui l'asphyxie, est maintenue et que l'hôtel Martinez continue d'être confisqué. Pierre Abramovici raconte pourtant, Emmanuel y croit. Il y croit même tellement qu'à peine le jugement prononcé, il se précipite à Cannes, prévenu Bertagna, c'est donc l'ancien adjoint qui maintenant est le patron de l'hôtel, comme par hasard. Bertagna l'empêche d'y entrer et le fait intercepter par la police. Le tenace Emmanuel n'est pas complètement désespéré pour autant, il veut rester debout Il veut croire que la justice lui rendra son bien. Mais deux nouvelles décennies de procédures n'aboutissent à aucun résultat probant. Pourtant, la dette de Skolnikov, dont Emmanuel a été déclaré solidaire, serait théoriquement éteinte depuis, même si des intérêts sont réclamés. Et la preuve de la vente de l'hôtel de Martinez à Skolnikov n'a jamais été apportée. Emmanuel Martinez, ruiné, mourra seulement le 15 octobre 1973 à Gênes, en Italie. Il avait 92 ans et aujourd'hui encore, ses descendants se battent pour retrouver leurs biens, pour effacer ce qu'ils considèrent surtout comme une injustice. Celle d'un homme qui avait travaillé pour faire de son rêve, et quel rêve, une réalité, et quelle réalité. Un homme qui a vu tout cela lui échapper dans des circonstances dont le moins qu'on puisse dire est qu'elles sont troubles. Bonjour Suzanne Martinez. Vous êtes la fille unique de cet Emmanuel Martinez dont je parlais. Vous êtes venue avec votre fils aujourd'hui pour témoigner de ce qu'il a vécu et de ce que vous-même vous vivez. Et vous êtes venue avec Patricia Brandao qui étudie les archives de ce dossier depuis maintenant des années et qui s'y repère mieux que quiconque n'aurait jamais su le faire.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Cet après-midi sur Europe 1, vous venez de nous raconter l'incroyable histoire avec des nombreux rebondissements de l'hôtel Martinez et vous recevez Suzanne Martinez-Kenny, la fille d'Emmanuel Martinez, et Patricia Brandao, chercheur en patrimoine historique en charge de l'affaire de l'hôtel Martinez.
Ce qu'il faut que je dise tout de suite à nos auditeurs, Suzanne, c'est que vous êtes la fille unique donc d'Emmanuel Martinez et que votre propre vie, que vous m'avez racontée un jour, cette vie est elle-même extraordinaire et qu'elle aurait pu faire une émission. Mais si vous êtes d'accord, nous n'allons pas parler de vous aujourd'hui, nous allons parler de votre père. Est-ce que vous pourriez nous le décrire comme ça en quelques mots, cet Emmanuel Martinez que je me suis essayé à décrire moi-même dans ce récit ?
Vous l'avez décrit superbement bien. Mon père était un homme absolument charmant, extrêmement intelligent. Il parlait 5 langues et il m'a toujours, nous sommes toujours vus. Il m'a toujours aimé, aidé souvent quand il le pouvait. Et je garde un magnifique souvenir de mon père.
C'était un homme meurtri par ce qui lui était arrivé, bien entendu. Il avait l'impression d'avoir été dépossédé de son bébé, de son hôtel Martinez.
Terriblement, il en a souffert, le pauvre homme, pendant des années et des années. Mais malheureusement, on n'avait rien pour pouvoir l'aider à retrouver son hôtel. Comme vous dites, c'était son bébé.
Il faut dire que vous avez réuni une somme de documentation phénoménale, Patricia Brandao. Vous suivez vous-même cette affaire, bien entendu. C'est vous qui fournissez un certain nombre des pièces au cours des différents épisodes judiciaires. Est-ce qu'on peut résumer, je sais que c'est difficile à faire, mais est-ce qu'on peut résumer cette affaire judiciaire à rebondissement qui n'arrête pas de multiplier les audiences, les non-lieux, les décisions désagréables, si je puis dire, depuis 1945 maintenant?
Alors oui, en fait, les instances en justice se déroulent au fur et à mesure de la découverte des archives. Emmanuel Martinez, quand il a voulu lui-même se battre, vu que tous ses biens, ses documents, ses affaires personnelles avaient été mis sous séquestre, dans des gros cartons de déménagement, tout en vrac, il ne pouvait rien prouver puisque l'État français avait la totalité de sa comptabilité, de ses courriers, que ça soit ses courriers intimes, ses courriers d'affaires, même ses photos de famille, l'État a tout pris. L'État a vidé son appartement, ses bureaux, tous les endroits où Emmanuel pouvait...
Quand vous dites l'État, on est en 1945 à ce moment-là ?
Oui, fin 44, début 45.
Donc c'est le gouvernement provisoire, hein,
à l'époque. C'est le gouvernement provisoire qui va, par le service des domaines, aller déménager tous les bureaux, que ce soit ceux de M. Martinez ou même ceux de M. Skolnikov. Mmh. Puisqu'il y a une opération pour vider les coffres dans les banques, les coffres dans les sociétés, tout est pris, tout est mis dans des cartons.
Quelles sont les raisons invoquées pour cette confiscation, cette mise sous séquestre de l'hôtel Martinez? Ce sont des raisons financières, des raisons de dette au départ.
En fait, oui. Moi, je pense qu'à la fin de la guerre, il fallait trouver des responsables. Comme vous l'avez dit, Emmanuel Martinez est un responsable qui est idéal, je dirais. Il était italien.
Oui, ça, ça.
Il avait eu des Allemands chez lui
pendant toute la guerre, enfin pendant de 42 à 44.
Et au tribunal de grâce, l'État français a présenté une photo d'Emmanuel Martinez avec des hautes personnalités allemandes en train de boire le champagne.
Eh oui.
C'est évident. Ils étaient chez lui.
Il était le propriétaire de l'hôtel, oui.
Il était propriétaire.
Donc ils avaient réquisitionné un étage entier. Oui.
Voilà, il habitait cet hôtel. Et en plus, Emmanuel dit au travers de certains de ses courriers que ça lui permettait aussi d'avoir des indications pour aider son gendre, qui était à la tête d'un réseau de résistance.
Et son gendre, c'était votre mari, Suzanne.
Exactement.
Que faisait votre père pour aider ce réseau?
Bien, il recevait ou chez moi, quand j'étais avec ma mère dans mon appartement, ou bien il était dans son bureau, et son bureau était au premier étage, et donc il fallait les reconnaître. Mais il a beaucoup aidé, il a même donné de l'argent aussi. Et il y avait énormément de personnes là à l'époque qui travaillaient dans la résistance, et qui venaient de Marseille, qui venaient d'Antibes, qui venaient de Jean-Lépin. Il y avait 5 ou 6 que je connaissais très bien, et mon père les a beaucoup aidés.
Pourquoi votre père est-il parti en Italie à la fin de la guerre?
Comme il a failli être tué, ma mère lui a dit « Tu vas monter dans la voiture » et maman l'a caché derrière avec une couverture et l'a conduit jusqu'à la frontière italienne. Et
on,
l'a
craignait là, on craignait l'action d'un certain nombre de résistants incontrôlés, si je puis dire, qui auraient pu le tuer comme une sorte de symbole de la collaboration avec les Allemands, c'est ça l'idée?
Exactement,
hein.
Exactement. Ils n'ont pas trouvé mon père, mais maman avait un magasin de couture juste à côté de l'hôtel, en face de l'hôtel, et ils ont saccagé son magasin avant que papa parte avec maman dans la voiture pour l'Italie.
Ensuite, il va se rendre en Angleterre. Pourquoi s'installe-t-il à Londres?
Ben, quand il est parti en Angleterre, c'est parce qu'il avait une affaire avant la guerre, le restaurant Earlscourt, et donc il pensait que là-bas, il pourrait peut-être se défendre un peu plus, quoi. Puis mon mari, de temps en temps, le voyait aussi, et voilà.
Et donc, il a maintenu, bien sûr, ses relations avec votre mari, qui...
Toujours. Parce que la guerre était finie et mon mari venait souvent là.
Et en 49, il décide d'aller se présenter de lui-même à Lyon devant cette haute cour.
Exactement, monsieur, exactement.
Et ça va être un moment très important puisque là, on reconnaît qu'il n'y a pas intelligence avec l'ennemi.
Il était heureux comme tout. Il nous a téléphoné, il a dit qu'il avait gagné et qu'il allait redescendre un peu à Cannes à l'hôtel pour voir qu'est-ce qui se passe. Mais il pensait pas se trouver avec Bertagna juste en face.
Alors Bertagna, c'est son ancien adjoint.
Pendant des années, il avait commencé à travailler avec mon père à Paris.
Qui entre-temps est devenu le patron de l'hôtel, mais pour le compte de qui, Patricia Brandao?
Alors pour le compte du service des domaines au ministère des Finances.
C'est-à-dire que le nouvel État, le gouvernement provisoire, a confisqué l'hôtel, il l'a versé directement au domaine et il l'a mis ce qu'on appelle en régie.
Exactement. Et en mettant à la tête l'ancien bras droit de Monsieur Martinez. Au même titre d'ailleurs dans l'affaire Skolnikov, l'État français à cette époque a choisi comme société d'expertise pour expertiser tout le séquestre Skolnikov, une société qui s'appelait Experta, qui est-elle exactement la société par laquelle Skolnikov passait pour faire ses achats et qui était une société à majorité de capitaux allemands.
Alors, est-ce que l'hôtel Martinez va rester propriété de l'État?
L'hôtel Martinez n'est devenu propriété de l'État qu'en 79 par une loi de finances.
C'est-à-dire que dans un premier temps, il est simplement confisqué et exploité, mais il n'est pas propriété de l'État.
Exactement. Le système d'un séquestre en France, c'est l'État doit et est obligé de se comporter en bon père de famille pour gérer un bien qui est mis sous séquestre. C'est-à-dire qu'une mise sous séquestre n'est pas une propriété pour l'État. L'État aurait dû gérer l'hôtel afin de payer la dette Skolnikov auquel M. Martinez était solidaire.
D'accord. Alors cette dette Skolnikov, elle se monte à des sommes extraordinaires, il faut le dire.
Tout à fait.
On réclame à la Libération près de 4 milliards de francs de l'époque. Alors certes, c'est un franc très dévalué, mais tout de même, c'est beaucoup d'argent.
C'est énormément d'argent. Et l'État, dans son rôle de séquestre, doit gérer la totalité des biens Skolnikov, les vendre ou les gérer et les exploiter. Mais en tout cas, ils doivent payer cette dette. Et c'est justement là qu'il y a le premier problème qui nous est apparu il y a quelques années en ouvrant les archives départementales des Alpes-Maritimes, où l'on a pu découvrir une partie de la comptabilité des biens de Skolnikov dans le sud de la France, dont le Martinez. Et là, on s'est très très vite aperçu que l'État français a géré le Martinez de 44 à 81, qui n'est d'ailleurs pas le rôle d'un État d'être hôtelier pendant autant d'années.
Bon, enfin ça, on pourrait en dire beaucoup, parce que l'État fait bien des choses différentes.
Tout à fait. Mais bon, pendant toutes ces années, l'État français a géré l'hôtel Martinez d'une façon assez drôle. Déjà, il y avait un gros budget d'invités. Les gouvernements successifs allaient passer leur petit séjour au Martinez, tout ça à titre gratuit. L'argent qui rentrait au Martinez aurait dû être mis directement à la trésorerie des Alpes-Maritimes, puis à la trésorerie du 16e arrondissement, qui gérait notamment le paiement de cette dette. On prend les bénéfices du Martinez, on les donne à la trésorerie, et ça réduit les dettes. Ce qui n'a pas du tout été le cas.
Alors qu'est-ce qu'on en faisait de cet argent ?
Ah ça, on ne le sait pas. Et ça, c'est une des questions que l'on pose à l'État français à l'heure actuelle.
Et ce qu'il faut bien préciser, c'est que nous parlons là de décennies d'exploitation de l'établissement, sous plusieurs régimes différents, bien entendu.
Tout à fait.
Et que systématiquement, cet argent n'est pas déposé à la trésorerie générale, c'est ce que vous dites.
Alors déjà, pendant 27 ans, zéro franc ont été déposés. Donc déjà, ça fait un trou pour le paiement de la dette.
Jusqu'en 81, ça.
Entre 44 et 81, pendant 27 ans, rien n'a été déposé. Quelquefois, ils déposaient des sommes. Donc le Martinez envoyait ces sommes à la trésorerie de Nice, qui mettait 3, 4, 5 mois. On a vu jusqu'à 3 ans pour donner cet argent à la trésorerie du 16e, qui, elle, après, faisait son travail pour payer cette dette. Mais entre-temps, il y avait des intérêts moratoires à raison d'1% par mois. C'est-à-dire que tout le temps où l'État français, domaine gérant de l'hôtel, n'a pas payé l'État français, ministère des Finances. Pendant ce temps-là, on calculait des intérêts moratoires.
Ben oui, voilà.
Et 1% par mois, c'est énorme sur des sommes pareilles.
Je précise bien que vous parlez sous votre responsabilité, Patricia Brandao, oui. Et que vous avez tous les documents. Alors, vous en avez des valises entières, hein, il faut dire. Mais que vous avez tout ce qui permet de prouver ce que vous avancez, hein, bien entendu.
Tout à fait.
Alors, votre père, Suzanne, s'est battu, bien entendu, puisqu'il est mort qu'en 1973. Il a intenté des actions. Et l'on va voir dans un instant ce qu'il en a été.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Et nous sommes, grâce à vous Franck Ferrand et vos invités, cet après-midi au cœur d'un grand dossier politico-financier, l'histoire de l'hôtel Martinez. Vous recevez cet après-midi Suzanne Martinez-Kenny, la fille d'Emmanuel Martinez, et Patricia Brandao, chercheur en patrimoine historique en charge de l'affaire de l'hôtel Martinez.
Il faut peut-être que nous précisions un peu les choses. Quelle est votre attente à vous, Suzanne Martinez, Kenny? Quelle est votre attente à l'égard de toute cette affaire? Vous voudriez qu'on vous restitue l'hôtel? Vous voudriez qu'on vous dédommage? Vous voudriez qu'on réhabilite la mémoire de votre père?
En premier, qu'on rende l'honneur à mon père. Parce que vraiment, il a passé par tellement d'années affreuses, même encore maintenant. C'est terrible, 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 terrible. Quant à l'hôtel, oui, on aimerait l'hôtel, bien entendu qu'on aimerait l'hôtel. Mais aussi peut-être un peu d'argent, parce qu'ils en ont tellement pris, tellement.
Il faut dire que vous, votre vie a été complètement bouleversée par cette affaire, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein.
Complètement.
Racontez-nous ce qui s'est passé. En 1944-45, vous êtes donc vous-même à Londres, et vous recevez votre père, si je puis dire, hein, qui vient s'y installer.
Oui, c'était en 45. Je voyais papa pas tous les jours, mais au moins deux ou trois fois par semaine. Il habitait l'hôtel. Moi, j'avais un petit appartement seulement. Et comme j'avais trois enfants et mon mari qui était encore à l'armée, parce que pour les Français, la guerre était finie, mais pour l'Angleterre,
oui, bien sûr,
c'était pas fini. Il allait souvent encore en Belgique ou en Allemagne.
Vous avez vécu donc là des années qui sont des années difficiles.
Bien
C'est-à-dire
entendu.
C'est-à-dire que vous étiez la fille...
Très jeune en plus.
Vous étiez la fille du fondateur du Martinez. Oui. Vous auriez dû vivre de façon très aisée. Ça n'était pas le cas. Hein. Vous avez
pas
vécu pendant
tout.
Très longtemps de manière chiche, il faut le dire.
Hein. Oui, assez longtemps parce qu'après... que j'étais mariée, j'avais trois enfants à élever. Pendant une quinzaine d'années, c'était formidable. Puis après, mon mari est tombé malade et il a fallu que je me mette à travailler.
et vous aviez vous-même, ce que vous m'avez raconté, ça c'est extraordinaire, vous aviez vous-même des dettes, en fait, à payer.
Oh, une somme ridicule, j'avais des millions, des milliards, je sais pas quoi. Et comme pour en finir, je travaillais, j'avais comme tout le monde, je travaillais au SMIC.
Vous aviez des charges qui pesaient d'abord sur votre père, ensuite sur vous, qui sont sans aucune commune mesure avec vos tout petits revenus, hein, il faut
exactement,
le dire.
Exactement, hein. Ouais. Exactement.
Alors il y a eu des procès quand même qui ont été tentés, Patricia Brandao.
Alors tout à fait, il y a eu des procès tentés en premier par Monsieur Martinez lui-même.
Mm-hmm. Donc ça dans les années 50-60.
Voilà, jusqu'à son décès. Mm-hmm. Puis les choses se sont un petit peu éteintes. L'ambassade d'Italie a pris un peu la relève, puisqu'ils ont essayé de faire comprendre à l'État français plusieurs choses. Premièrement, on ne condamne pas une personne solidaire d'un mort. Puisque,
Skolnikov, en l'occurrence.
Voilà. Puisque Monsieur Skolnikov était déclaré par les Espagnols décédé le 9 juin 1945, sa condamnation n'a pas lieu d'être puisqu'il est condamné après son décès, et encore moins la condamnation d'un solidaire.
Et oui.
Donc l'État français ne reconnaît pas la mort de Skolnikov, malgré un rapport de police...
C'est fondamental de le dire, parce que d'abord c'est à l'origine de toute l'affaire Skolnikov, et en plus ça explique son attitude juridiquement, bien entendu.
Tout à fait, et malgré un rapport de 1000 pages de la police espagnole sur la mort de Skolnikov, l'État français ne reconnaît pas la mort de Skolnikov. Donc la grosse machine juridique continue sur Monsieur Martinez, comme si rien ne s'était passé dans la vie de Skolnikov. Là, par contre, un point nouveau a permis de la réouverture des débats, c'est justement le décès de Skolnikov.
C'est-à-dire ?
Alors, dernièrement, j'ai pu découvrir aux archives de la Défense, au château de Vincennes, un dossier qui s'appelait seulement Mandel Skolnikov. 476 pages exactement. J'ai été très curieuse. J'ai fait beaucoup de demandes pour avoir ce dossier entre les mains.
Ça n'a pas dû être très facile, il faut le dire.
C'était pas vraiment facile, mais c'était pas le pire. Et donc, à la découverte de ce dossier, je me suis aperçue que le décès de Skolnikov était connu depuis le jour de son décès par l'État français.
Qui faisait comme s'il ne savait pas, puisque l'État prétendait officiellement que la dépouille retrouvée en Espagne n'était pas celle de Skolnikov et que donc Skolnikov était réputé disparu et non pas mort.
Exactement.
Ce qui permettait de justifier sa condamnation et de justifier la condamnation solidaire d'Emmanuel Martinez. Hein, je résume un peu l'histoire pour ceux qui viendraient à nous rejoindre en cours de route.
Tout à fait. Seulement dans ce dossier, qui est estampillé par les services secrets français, tout l'assassinat de Skolnikov y est décrit par 4 hommes envoyé par le gouvernement provisoire. Donc là, les choses sont dites. De plus, par chance, dans ce dossier, vous savez, souvent dans les dossiers des services secrets, les personnes sont citées par d'autres noms. Eh bien là, non, il y a l'attestation des hommes disant « j'ai tué ». Et il y a même 3 télégrammes à la fin de ce dossier où, lorsque la mission est faite, c'est-à-dire Skolnikov est assassiné et carbonisé, ces 4 hommes préviennent le chef du gouvernement provisoire, comme quoi la mission est arrivée à son terme. Nous sommes le 9 juin et l'on
45.
45. Oui. Et l'on condamne quand même Monsieur Skolnikov et Monsieur Martinez en tant que solidaires.
Vous laissez entendre là qu'il y avait la volonté, en quelque sorte, de faire main basse sur l'autel.
Mais tout à fait. Skolnikov représentait la plus grosse fortune de France.
État français. Fortune très mal acquise. Hein,
très mal acquise, mais complètement, je suis d'accord avec vous. Mais en tout cas, c'était une somme d'argent qui s'étendait sur des biens parisiens, sur des biens sur la Côte d'Azur, mais aussi sur Monaco. Skolnikov avait 81 bâtiments.
Oh là, oui.
Donc c'était une fortune colossale. Donc bien évidemment que l'État français voulait mettre la main dessus. Et si au passage il pouvait récolter les biens de 2-3 solidaires, bah, c'était pas mal aussi.
Alors que va-t-il devenir cet hôtel Martinez? Vous nous dites, pendant 27 ans, c'est-à-dire jusqu'en 1981, il est exploité par l'État. Et ensuite?
Alors ensuite, il est vendu à un propriétaire privé, français, grande famille française.
Bien connu.
Bien connu. Il faut savoir que cet hôtel aurait dû être vendu aux enchères publiques, puisque c'était un bien qui avait été mis sous séquestre. Pas du tout. On n'a jamais trouvé trace des enchères publiques, même avant le passage devant le juge des expropriations, qui est un passage obligatoire pour la vente d'un bien sous séquestre.
Donc là, nous entrons dans les arcanes d'un dossier judiciaire. Je précise que, là, encore une fois, je le redis, vous parlez sous votre responsabilité et vous avez tous les documents qui permettent d'affirmer ce que vous dites. Parce
écoutez,
que...
j'ai 2 800 000 documents. J'ai vidé tous les documents, que ça soit du ministère des Finances, que ça soit du ministère des Affaires étrangères ou du ministère de la Défense.
Donc vous mettez en cause, en quelque sorte, la vente même de l'hôtel à ce propriétaire privé, en fait. Hein.
À 100%. Et c'est pour ça que le 1er février 2011, après une longue discussion avec Pierre Zegmar, la décision a été prise de revendiquer la propriété de l'hôtel. C'est-à-dire, rendez à Madame Martinez les clés de son hôtel. Une condamnation avec un mort, une vente qui paraît bizarre, des intérêts moratoires qui sont reconnus en 2011 par la brigade financière via le TGI de Paris, comme quoi il y a eu mise en place d'une dette perpétuelle avec des intérêts moratoires comme ça. Donc tout ceci fait que il faut revendiquer la propriété du Martinez. Ça a été la toute première partie que nous avons faite, je dirais, tous ensemble, c'est-à-dire l'équipe de travail du Martinez.
Quelle est-elle cette équipe et qui la dirige?
Qui la dirige? Suzanne. Suzanne, c'est notre moteur de cœur. C'est elle qui nous donne envie de travailler. Parce que vous savez, aller chercher autant d'archives, les exploiter. Maître Zegmar, qui est l'avocat de la famille, est obligé de tout lire afin de présenter tout ça dans des écritures. Et pour trouver autant de courage, on a besoin de Suzanne. Suzanne est notre moteur.
Ce qu'il faut dire, c'est que pendant que nous parlons, les charges qui pèsent sur la famille, enfin donc en l'occurrence sur Suzanne Martinez, sont très importantes. On continue à lui réclamer des intérêts moratoires, etc.
400 000 euros par an.
400 000 euros par an, dont elle est bien incapable de verser.
Mais la machine continue.
Et ça veut dire d'un point de vue concret, Suzanne Martinez, que vous versez actuellement de l'argent?
Non. J'ai péniblement à vivre. Je touche 1100 francs par mois.
Donc en fait, vous êtes exempté, si je puis dire, du paiement de ces intérêts moratoires.
Ça continue et moi je paye pas.
Oui, l'État a la délicatesse de ne pas lui réclamer.
D'accord. Mais c'est une dette qui n'arrête pas de grandir, bien
entendu. C'est une dette qui n'arrête pas de grandir. Alors, l'État accepte de ne pas recevoir cet argent, malgré que l'État sait qu'il est totalement en faute. Et on a, dans toutes nos archives, il faut savoir que 80% de ces archives sont des écritures de l'État français, des lettres de l'État. Je vais me permettre de vous en citer une que j'ai trouvée aux archives départementales de Paris, qui est flagrante. Donc c'est une lettre qui est datée du 22 août 63, écrite par le directeur des domaines de la Seine et destinée à Olga Kazakevitch, qui était la nièce de Skolnikov et qui devait s'occuper de la succession sous séquestre de son oncle. Mais faut le faire, faut toujours passer devant un notaire. Donc elle a fait les choses, elle a donc écrit au directeur des domaines pour savoir où en étaient les biens. Le directeur des domaines lui répond en 63 « Les actions des hôtels Roule et Martinez ne sont pas comprises dans les valeurs de l'hérédité restant à aliéner pour le motif que M. Skolnikov ne détenait, après consultation des documents sociaux, aucune participation dans les entreprises propriétaires de ces établissements. »
Résumé pour ceux qui, comme moi, ne comprennent pas ce langage juridique.
« Les domaines reconnaissent que Skolnikov n'était pas propriétaire ni de l'hôtel Roule à Nice, ni du Martinez à Cannes.
Ah oui, donc
nous
ça,
sommes
ça fait...
en 63, ils le reconnaissent, mais ils continuent.
Donc un, l'État, nous dites-vous, savait que Skolnikov était mort, et deux, il savait depuis le milieu des années 60, même depuis 1963, que Skolnikov n'était pas propriétaire de l'hôtel Martinez. C'est ça, hein, ce que vous dites?
Tout à fait.
Eh bien voilà, qui donne matière à Suzanne. C'est vous qui allez conclure cette discussion.
Non, j'aimerais dire quelque chose. Pendant 4 ans, j'ai été obligée de payer un chèque chez un huissier et il me demandait 1000 euros par mois, mais c'était ce que je touchais pour vivre. Donc mon avocat a discuté un petit peu avec eux et j'ai eu à payer que 300 euros par mois. Et tous les mois, sur mes 1200 francs, j'allais porter un chèque au huissier pour payer et j'en ai eu pour 4 ans.
Un dernier mot, Patricia Mandeau.
Alors, juste pour revenir aux instances, je pense que tout le monde joue la montre et attend le décès de Madame Martinez pour que ces instances s'éteignent. Et ils jouent tellement la montre que demain, nous avons une instance à Monaco où nous avons demandé la main levée du séquestre de Monsieur Martinez, qui date de 44. Ce matin, à 7h30, j'ai eu notre avocat au téléphone. Il n'avait toujours pas reçu les écritures de la partie adverse. Donc, on joue la montre, ce qui veut dire que demain, on aura encore à nouveau un report.
Merci beaucoup. Bravo de ne pas vous décourager. C'est une affaire assez extraordinaire que vous nous avez racontée et je trouve qu'il était de salubrité publique de vous permettre d'exprimer ce que vous avez sur le cœur depuis si longtemps. Merci beaucoup.
Et dans un instant, Franck Ferrand, vous nous donnerez les origines de l'expression « à tire-larigot ».
Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et aujourd'hui, c'est Gauthier qui vous pose cette question. Franck, il voudrait en savoir plus sur l'origine de l'expression « à tire-larigot ».
Oui, « à tire-larigot », ça exprime l'idée d'une grande quantité. À l'origine, cette expression était associée au fait de boire. Vous savez, on disait « boire à tire-larigot », boire beaucoup. Dans l'argot du XVe siècle, « tirer » faisait référence au fait de faire sortir un liquide de son contenant pour le boire. On tirait le vin, tout simplement. Quant au « larigot », c'était une petite flûte rustique. Et lorsqu'on buvait à tire-larigot, il s'agissait de faire sortir le vin de la bouteille comme on ferait sortir le son d'une flûte, tout simplement. C'était ça l'idée. L'association de ces deux mots trouve son origine dans le fait que le verbe flûter était employé pour exprimer le fait de vider les verres les uns après les autres. Donc vous voyez qu'il y a tout un champ, en quelque sorte, un champ lexical autour de cette notion de flûte. Comme toujours, l'origine de l'expression fait néanmoins débat. On trouve une autre théorie selon laquelle l'expression pourrait faire référence à la rigaude ou la rigaud, qui est le nom de la grosse cloche de la cathédrale de Rouen, nommée en référence à l'archevêque Eudes Rigaud qu'il aurait offerte à la ville au XIIIe siècle. Cette cloche est d'une taille absolument démesurée. Elle serait par conséquent très difficile à tirer. Alors les sonneurs, pour se donner du courage, pour se donner de la force, auraient pris l'habitude de boire beaucoup, de boire à tire-larigot. Vous me permettrez de considérer que cette explication est un peu tirée par les cheveux.